Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi dans le studio, Robin Decle de l'association Dryade et Philippe Meret de l'association Les Bonnes Énergies qui viennent parler d'un projet d'AMAP Bois afin de bien gérer la forêt locale et aussi promouvoir le bois résineux local comme bois de chauffage. Pour informer la population de leur projet, Les Bonnes Énergies et l'association Dryade organisent une réunion publique le 18 décembre à 20h30 à la salle Fongiraude. C'est la salle qui est juste en dessous de la salle polyvalente, dans laquelle ils expliqueront la teneur de leur projet. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors c'est un projet que vous aviez déjà essayé de promouvoir il y a un certain temps, Philippe, et qui n'avait pas abouti. Alors peut-être que tu pourrais nous parler et du projet et du passé, pourquoi ça n'avait pas abouti et pourquoi ça pourrait marcher maintenant.
Le projet, c'est... On a beaucoup de bois dans la région, dans le Diois. Il y a beaucoup de résineux, du pin noir d'Autriche et du pin sylvestre. Et ces forêts ne servent à rien, sinon pour la pâte à papier. Nous, on est plusieurs à savoir que le résineux est un très bon bois de chauffage. Mais dans l'inconscient collectif, on va dire, comme le loup, les gens ne brûlent pas du pin noir parce que c'est pas un bon bois. Alors qu'en fait, c'est un très bon bois de chauffage pour peu qu'on ait les bons outils pour le brûler, quoi. L'association a un autre... veut promouvoir aussi la bonne gestion des forêts, quoi. Et c'est là où Dryade peut vraiment nous aider, quoi, parce qu'ils connaissent le sujet, quoi. On ne veut pas faire des coupes à blanc. Le problème, c'est que tous les professionnels, généralement, la grande majorité des professionnels ne peuvent travailler que comme ça, en disant qu'autrement, ils n'arrivent pas à sortir de bénéfices de l'entreprise, quoi. Donc nous avons trouvé un entrepreneur qui veut bien travailler avec nous, Gérard Perdry de Beaumont, qui va s'occuper de toute la manutention de l'histoire, quoi, au moins pour cette première année.
Alors, si je me rappelle bien, dans votre première tentative, c'était plutôt des appels à fêtes collectives de coupage, de bûcheronnage, voilà. et qui n'avaient pas donné grand-chose, quoi.
Ça n'avait pas donné grand-chose, ça avait, à mon avis, enfin, pour avoir bien participé à l'histoire, c'était pas viable dans le temps, quoi. Personnellement, j'avais passé beaucoup, beaucoup d'énergie dessus, quoi, et je me voyais mal à longueur d'année travailler comme ça, quoi.
Motiver des gens, leur dire allez, on voilà. vient tel, voilà. tel jour, telle heure avec vos tronçonneuses, et puis on voilà. s'y met tous et on en profite.
Et en plus, ce sont des travaux qui sont très techniques. Il faut faire attention à la sécurité de tout le monde. Donc en fait, c'est tout un savoir organiser une coupe collective avec du monde, de savoir où est-ce qu'on peut couper, en même temps s'occuper de faire attention à la sécurité des gens qui, eux, ne connaissent pas ce travail, donc ne sont pas conscients des dangers qu'il peut y avoir. Il faudrait à la limite que sur ces coupes collectives, il y ait quelqu'un qui s'occupe uniquement de la sécurité et ne travaille pas, quoi. Mais bon, du coup, c'est un peu compliqué parce que généralement, c'est les mêmes qui savent servir d'une tronçonneuse ou qui savent comment faire tomber un arbre, dans quel sens, voilà, de le diriger la tombée de l'arbre ou des trucs comme ça, et en même temps qui devraient être uniquement sur le bord et regarder tout ce qui se passe pour faire attention. Donc voilà, enfin, tout ça, c'est des choses à développer. Et c'est vrai qu'actuellement, ben, du coup, c'est plus comme avant. On commence avec du bois qui nous est fourni par un professionnel. On n'aura pas le couteau sur la gorge à sortir absolument du bois et pour que l'association fonctionne, quoi. Là, on aura déjà le bois et après, on saura comment s'organiser. Au fur et à mesure, on s'organisera correctement pour pouvoir faire des coupes collectives parce que c'est une expérience très intéressante. Et puis, parce que l'association aura besoin de ça, financièrement parlant, quoi.
En tout cas, l'avantage de faire appel aux bonnes volontés et aux gens intéressés, c'était plutôt gratuit quand même. Tandis que là, vous allez payer un professionnel.
Oui, mais on s'est aperçu quand même que même gratuitement, on sortait pas moins cher qu'avec un professionnel qui a tous les outils et qui... il va avoir un gain de temps entre le moment où l'arbre tombe et le moment où la bûche rentre chez le client, quoi. Chez le client, j'aime pas dire ça, parce que tous les gens qui fonctionneront avec nous seront adhérents de l'association. Donc ce ne seront pas des clients, ce seront des adhérents. Mais bon, il y a beaucoup moins de temps en travaillant avec un professionnel entre le moment donc, de la tombée de l'arbre et le moment où les bûches arrivent chez la personne, quoi.
Alors Robin, je suppose que si tu es impliqué dans le projet, c'est que tu t'y connais un peu. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu l'article du bois bûche résineux ? Pourquoi est-ce un bon bois et pourquoi l'inconscient collectif se plante sur ce sujet ?
Ouais, alors je crois que l'enjeu, c'est pas forcément de brûler du résineux à tout prix, hein. C'est juste que ce qu'on souhaite, c'est brûler du bois local, parce qu'on se rend compte ici dans la Drôme, on a des bois de faible valeur globalement, hein. Quelques exceptions près, mais globalement c'est plutôt des bois de faible valeur, donc qui font que les propriétaires vont soit décider de rien y faire, de laisser les bois à l'abandon, soit de faire des coupes rases, des coupes à blanc, parce que c'est les seules rentables pour faire des économies d'échelle, quoi. Et c'est du bois qui va partir, voilà, comme le disait Philippe, majoritairement pour la pâte à papier, pour du bois d'industrie. Et on se rend compte du coup que la Drôme, qui est quand même un département assez boisé, hein, c'est 50% de la surface du territoire qui est boisé, elle importe majoritairement son bois de chauffage. Parce que Dryad, l'association où je travaille, donc, qui est basée à Cray, là on voit que c'est la majorité des exploitants achètent du bois qui vient d'autres régions, le refendent, le font sécher et le revendent ensuite. Ils font que la transformation, en fait. Dans le Diwa, ça commence à se voir aussi, ces pratiques-là, même si c'est pas forcément la majorité. Donc on voit qu'il y a un peu un paradoxe à habiter dans un département très boisé et qui va importer du bois de l'extérieur pour le chauffage. Il se trouve que dans le Diwa, le bois qu'on a majoritairement, c'est du résineux. C'est du pin noir et du pin sylvestre. Donc il faut... si c'est possible, se chauffer avec la ressource locale. Et il se trouve que, voilà, se chauffer avec le bois résineux, ça a mauvaise presse, mais c'est un bois qui a une bonne capacité calorifique, qui va bien chauffer. Donc le problème qu'on met souvent en avant, c'est que ça va encrasser les tuyaux, ce qui n'est pas vrai si on a une bonne combustion maîtrisée dans son poêle. Donc si on n'a pas forcément des poêles de dernière génération, etc., peut-être qu'il vaut mieux brûler des mixtes de feuillus et résineux, faire un mélange. C'est vrai que ça a très mauvaise presse, mais quand même, comme il y a de moins en moins de faillards, il y a de moins en moins de hêtres, il y a de moins en moins de feuillus, accessibles en tout cas pour l'exploitation, on commence à s'y mettre, y compris dans les communes avoisinantes où il y a des coupes d'affouage, des coupes communales, où les habitants vont couper leur bois. Maintenant, il y a certains villages qui obligent à prendre, si on prend une coupe de hêtres, on est obligé de prendre en même temps une coupe de pin. Donc ça commence à rentrer quand même aussi dans les mœurs, mais voilà, pas forcément suffisamment, quoi. On pense que c'est possible de brûler plus de bois résineux et que c'est un moyen de valoriser la ressource locale.
Alors donc tout ce qu'on entend dire sur le fait que ça encrasse les tuyaux, c'est faux. Il n'y avait pas une question de séchage aussi, de temps de séchage ?
Si, mais en fait ces temps de séchage sont vrais aussi pour les faillères, quoi. Du bois pour qu'il brûle bien, j'ai pas les chiffres là, mais selon entre la première année et jusqu'à la troisième année où il est au top de combustion, quoi, on progresse vraiment. Plus il est jeune, en fait, plus on brûle de l'eau. Enfin, on transforme la chaleur qu'on a, elle se transmet dans l'eau, elle part directement dans les conduits. Et donc, voilà, on gaspille en fait notre énergie, quoi. Donc, c'est pour ça que le bois, il faut le faire sécher au moins 2 ans, quoi. Il faut que... Qu'on réapprenne, je ne sais pas si on a su le faire déjà avant, quoi, mais qu'on apprenne à chauffer correctement avec du bois, quoi. Jusqu'à maintenant, on pense toujours, c'est super bien, on fait chauffer, puis après on met le feu au ralenti, et c'est super, parce que le lendemain je me réveille, j'ai encore des braises dans mon feu, c'est super. En fait, il faut plutôt monter son poêle à très haute température un temps court, que de le faire fonctionner un temps long avec une température inférieure, quoi. Donc en fait, c'est toutes des habitudes, des cultures, des expériences qui sont à changer, quoi. Ça ne sert à rien d'essayer de se tenir du pain dans de la braise. Une bûche qui va chauffer pendant 3 heures, elle va beaucoup moins chauffer que si cette bûche, on l'a fait chauffer en 1 heure, mais à très forte température, quoi. Et en plus, tous les conduits seront propres, alors qu'avec des combustions lentes, on calamine les tuyaux, quoi. C'est pas bon, c'est là où on a des problèmes et on peut avoir des feux de cheminée. Alors que si on fait chauffer du bois très très fort, on a des conduits qui sont nickel tout le temps, quoi.
Parce qu'il y a une bonne combustion et donc il y a moins de pollution aussi, hein, parce
que je sais. Alors pas si... voilà, exactement. Le fond de l'histoire, c'est ça, quoi. À la semaine de l'écologie l'année dernière, il y avait un gars, un spécialiste qui était venu et qui, moi, m'avait vraiment ouvert les yeux là-dessus, quoi. Depuis, je me renseigne sur ce système et tout le monde, enfin tous les gens qui sont spécialistes du bois de chauffage, enfin sont d'accord avec ça, quoi. Hein. Donc voilà, il faut qu'on fasse comprendre aux gens comment chauffer leur maison, quoi, et qu'ils changent leurs habitudes.
Vous avez vu à Paris, là, ils viennent d'interdire les feux ouverts, hein, et à cause des particules fines et sans doute à cause des bois qui se consument mal.
Exactement.
Alors, votre objectif, c'est donc non seulement faire la promotion du bois local, expliquer encore et réexpliquer que c'est du bon bois, mais aussi faire de la gestion intelligente de parcelles. Alors là, qu'est-ce que la bonne gestion, à part les coupes franches? Y a-t-il des ruses particulières?
L'initiative là, qui est portée par les bonnes énergies, on essaye de mettre en place un genre d'AMAP bois. Donc la MAP, pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est la MAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, les AMAP c'est des collectifs de consommateurs qui s'organisent pour travailler avec, en lien avec des producteurs et qui s'engagent à un certain cahier des charges, à une certaine bonne pratique d'agriculture. Les consommateurs en retour s'engagent dans la durée auprès de, ce consommateur et, voilà, et acheter ce qu'il a au moment où il l'a. Et ça c'est le principe un peu dont on a l'habitude. Là on adapte le concept au bois de chauffage en disant on travaille avec un exploitant forestier qui s'engage sur un certain nombre de bonnes pratiques de gestion et qui s'engage à fournir du bois local exclusivement. Et en échange les consommateurs s'engagent et bien payer au moment des travaux, donc ils payent leur bois avant... Deux ans avant, s'il faut le faire sécher deux ans, voilà, donc comme c'est le cas, au moins en partie, hein. C'est pas tout, mais une partie, histoire de couvrir au moins les frais de chantier.
Au moins au commencement de l'association, quoi, de toute façon.
Oui, en tout cas, c'est l'idée au démarrage, que ça soit pas au forestier qui a à faire l'avance de trésorerie, et du coup que ça soit aussi les banques qui s'enregistrent sur le dos du trésorier, etc. Quoi. Donc il y a cette idée-là. Il y a aussi l'idée de créer le lien, comme dans les AMAP, hein, le lien entre l'exploitant et les consommateurs, donc d'organiser des temps portes ouvertes sur le chantier, des chantiers participatifs, où les usagers peuvent venir donner un coup de main, et en même temps qu'il y a un échange avec le bûcheron, avec l'exploitant, de voir un peu comment ça marche, voilà, la forêt. Et donc où là, justement, on va parler de comment est-ce que lui, il gère les coupes et la forêt là où il exploite. Donc pourquoi est-ce qu'il va couper tel arbre plutôt que tel autre, etc. Ce qu'on demande à l'exploitant, c'est que le bois qu'il coupe, ce soit exclusivement soit des coupes sélectives, donc pas de coupe rase, ou alors sauf si c'est pour de la réouverture de milieu, pour du pâturage. Donc qu'est-ce que c'est une coupe sélective? Ça veut dire que l'exploitant va choisir de sélectionner certains arbres qu'il va laisser sur pied, des arbres dits d'avenir, donc des arbres qui sont plutôt beaux. Par exemple, sur une parcelle de résineux qui a été complètement recouverte de pins, mais en dessous, on va voir qu'il y a une régénération de feuillus. Ça va être d'ouvrir le bois pour permettre aux feuillus de se développer dans des meilleures conditions. C'est ça l'idée d'une bonne gestion qui va être différente de la coupe rase où on coupe tout, on prend tout, quoi.
Est-ce que ça sera toujours possible d'aller avec M. Perdry, professionnel, pour l'aider, etc. Ou est-ce que ce concept d'utiliser les bonnes volontés est toujours d'actualité?
Oui, il est toujours d'actualité.
Donc on pourra aller, pour les gens qui veulent consommer du bois local, ils peuvent donner un petit coup de main et peut-être avoir une ristourne sur le prix. Peut-être, j'en sais rien, je pose une question.
Le chantier qu'on fait avec Gérard, on relance l'affaire avec lui. Peut-être que dans le futur, ça continuera avec lui. Je le souhaite, quoi. Mais il faut voir après si Gérard Perdry peut travailler dans les conditions que Robin disait, quoi. Tout ça, c'est à voir, quoi. Mais de toute façon, on va travailler, nous les adhérents de l'association, on va se retrouver sur des travaux, quoi. C'est obligatoire, c'est comme ça que ça va se passer, quoi.
En fait, ça a été discuté avec Gérard Perdry, hein. Donc lui, il est d'accord pour qu'il y ait des temps spécifique, ça peut être deux journées de chantier porte ouverte où les usagers peuvent venir à ce moment-là et qu'il y ait un chantier collectif qui se fasse à ce moment-là. Et donc, c'est pas une ristourne sur le prix de l'Aster, c'est plus un échange qui se passe à ce moment-là où le forestier, en échange du temps que viennent donner les usagers, il accepte de donner du temps, lui, pour expliquer son travail, expliquer comment ça se passe, etc. Mais l'idée, c'est pas de dire que les bénévoles vont faire le travail du forestier, quoi. C'est plus là, voilà, qu'un échange. À voir après, peut-être par la suite, si y a des gens qui ont envie de plus s'impliquer, de plus vraiment participer au chantier, et s'il y a une entente qui se crée à ce moment-là avec le forestier, pourquoi pas. Mais c'est à travailler dans l'avenir, quoi.
Alors, en parlant de parcelles, d'où viendrait-elle? Parce que vous parlez de deux choses, soit la coupe sélective, soit une réouverture pour pâturage. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens... D'où viennent ces parcelles, en fait?
Du coup, c'est ça le travail de l'association, hein. C'est justement de rassembler les usagers, les consommateurs, de trouver, rencontrer les forestiers qui seraient prêts à travailler dans cette démarche, et aussi aller rencontrer les propriétaires. Donc visiter des parcelles, expliquer la démarche auprès des propriétaires, Parce que dans cette démarche, il faut savoir que le propriétaire, il ne va pas recevoir un bénéfice à court terme. Il ne va pas recevoir le même bénéfice que s'il vend son bois pour une coupe rase, par exemple. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Un propriétaire, il vend son bois sur pied à un exploitant forestier, donc qui achète le bois sur pied, qui l'exploite et qui va le revendre après, une fois qu'il est exploité. Nous, les propriétaires avec qui on travaillait, on leur explique que le travail qui va être fait, c'est un travail d'amélioration. C'est-à-dire un travail de sélection des arbres d'avenir, etc. Et que du coup, la forêt, elle va gagner en valeur sur le long terme. À très court terme, ils n'en retireront peut-être pas un bénéfice net direct à très court terme, mais sur le long terme, ils seront gagnants, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Donc le travail de l'association, c'est aussi ça, d'aller démarcher les propriétaires. Alors il se trouve que là, Gérard Perdry a des parcelles où lui, il a du pain, en fait, qui appartiennent à une éleveuse et qui, donc lui, il va ouvrir les milieux pour cette éleveuse. Donc là, en l'occurrence, la question, c'est simplifié, quoi.
Parce que tu as dit tout à l'heure, Philippe, que le principal coût, c'était la manutention, le bûcheronnage, etc. Puis après, transporter le bois, etc. Et ce coût peut être exponentiel si la parcelle est pentue, loin dans la montagne, etc. Je suppose qu'il y a des parcelles qui sont plus ou moins accessibles.
Alors ça, c'était un des problèmes de la première vie de l'association, quoi. C'est que tous les gens qui nous proposaient des coupes avaient fait appel auparavant à des professionnels qui n'avaient pas accepté ces coupes parce que c'était des endroits qui étaient compliqués à gérer. Donc voilà, le travail de l'association, c'est vraiment ça aussi, c'est de faire comprendre aux gens ce concept que Robin vient d'expliquer, quoi. D'amélioration de la valeur des forêts, et puis ne serait-ce que qu'esthétiquement, quoi. Là on est habitué, on regarde un pan de montagne, tous les anciens pâturages sont en pin noir ou en pin sylvestre et tous les crêtes sont les bois communaux et là où on voit du faillard, quoi. Ben et ça, donc avec des coupes sélectives sur 10, 15, 20 ans, 30 ans, on va changer le paysage, quoi. Les paysages vont redevenir autre chose que ces murs verts foncés propres aux résineux, quoi. Donc pour rendre du faillard, quoi. Il faut qu'on le fasse comprendre aux gens. Voilà, donc il faut qu'on trouve les bonnes personnes, parce que c'est vrai que si un professionnel ne veut pas une coupe, du coup on appelle les bonnes énergies juste pour ça, quoi. Nous, ça va être compliqué. On en prendra sûrement de toute façon, quoi, mais parce qu'on sera nombreux, quoi, mais ça sera beaucoup, beaucoup d'énergie, quoi. Enfin, déjà, le fait de couper du bois, ça demande beaucoup d'énergie, quoi, mais il y a des endroits où c'est vraiment très, très compliqué. Moi, j'ai travaillé en Haute-Savoie, quoi, dans des coupes où c'était... le bois était très, très cher, quoi, parce qu'on allait le chercher à des endroits qui étaient très compliqués, quoi. Et ben, on peut avoir exactement les mêmes problèmes ici, quoi, dans des pentes qui sont très, très fortes, où on est loin des pistes, voilà, quoi. Si encore, en plus, les pistes sont en aval, ça va, quoi, mais si elles sont en amont, quoi, ça devient vraiment très compliqué à imaginer, quoi.
Parce qu'on fait une coupe sélective, le faillard pourrait revenir ?
Oui, parce que Robin disait tout à l'heure, une coupe sélective, on est dans un bois, on va enlever, je me rappelle, combien c'est à l'hectare qu'on enlève ? Tu te rappelles ?
En coupe sélective, autour de 25%, quoi.
Voilà, 25%. Après... Donc qu'est-ce que je vais enlever sur cet hectare de forêt, quoi ? On est dans une forêt à 98%, ce sont des pins noirs ou des sylvestres. Et puis, quand on se promène dedans, on s'aperçoit qu'il y a un ou deux faillards. Ça dépend des altitudes, hein, mais on peut tomber... Il y a plein de... tout ce qui pousse dans le coin, quoi. Entre autres, quand même, essentiellement, ce sont des érables, qui sont vraiment des pionniers, quoi. Hein. Mais on trouve des érables... En fait, on va créer une mini clairière autour de cet arbre, enfin, surtout sur le sud, en protégeant le nord pour le protéger du froid, quoi. Mais sur le sud, on va lui créer une mini clairière qui va lui faire un apport de lumière. Et donc, il va pouvoir se développer en épaississant, alors que s'il reste dans la forêt, il va uniquement se développer par le haut pour aller chercher cette lumière, quoi. Si nous, on lui fournit la lumière, pouf, il va pouvoir s'étoffer et augmenter toutes ses surfaces de feuilles, quoi. C'est ça, une coupe sélective, hein. Et donc, des fois, tu tombes sur un petit chêne, quoi, qui n'est pas très haut. Ben, ce petit chêne, on va faire en sorte, tiens, quel est l'arbre qui l'empêche de pousser ou quel est le meilleur moyen pour qu'il pousse correctement. On regarde et puis on se dit, oh, ben, tiens, là, il y a cet arbre-là et peut-être ce deuxième-là qui sont à couper. Et puis on verra, ne jamais se presser, on verra dans 5 ans. Parce qu'en fait, après, il faut revenir régulièrement, quoi. C'est pas toutes les années, mais tous les 5, tous les 10 ans, quoi. Il faut revenir pour continuer ce travail-là, quoi. on va revenir et puis on verra où il en est. Et puis il y aura sûrement d'autres arbres à couper à ce moment-là. Et puis si ça se trouve, on s'apercevra que notre choix était mauvais, que c'est vraiment trop compliqué pour le laisser. Donc il, lui disparaîtra aussi, quoi, pour en privilégier un autre. Quoi.
Ceci dit, parce qu'il y aura de la lumière et de l'espace, il pourrait y avoir d'autres surgeons d'arbres.
Ah oui,
c'est ça.
Oui.
Aussi, non, je sais pas. Parce que est-ce qu'un arbre recolonise un espace naturellement ou est-ce qu'il a besoin d'être aidé? Je vois qu'il y a des fois où on plante des greffons d'arbres, c'est qu'on a besoin de les aider des fois les arbres. Est-ce que si on coupe que des pins noirs d'Autriche et des pins sylvestres, à ce moment-là, les érables ou les faillards reviennent naturellement?
En fait, la forêt, elle, naturellement, elle va évoluer vers le faillard, hein, puisque les pins sont les espèces pionnières, donc qui vont recoloniser les milieux qui sont ouverts, donc les anciennes pâtures, etc. Et en dessous, à l'ombre, parce que le faillard, il a besoin d'ombre pour se développer hein, au démarrage. Donc, il ne pourra pas coloniser des espaces ouverts. Donc, forcément, il viendra en dessous des espèces pionnières comme le pin. Mais la forêt, elle va aller naturellement vers ça, en fait. On pourrait laisser faire et de toute façon, voilà, dans peut-être, je ne sais pas si c'est 30 ans ou dans un siècle, quoi, mais au bout d'un moment, on arriverait vers plus de feuillus. L'idée, c'est juste de dire qu'on accompagne ce mouvement ou au moins on ne l'entrave pas quand nous on prélève du bois pour se chauffer. Que si on fait une coupe rase, ça veut dire qu'on réouvre le milieu, ça veut dire que ce qui va repartir derrière, ça va forcément être des espèces pionnières comme le pin. Le faillard, il ne pourra pas revenir sur un milieu qui a été ouvert à blanc. Il y a des espèces de semi-ombres qui pourront se développer si on ouvre à certains endroits plus qu'à d'autres, etc. quoi. Comme l'érable, voilà.
Alors, je ne connais pas qui possède les forêts autour de nous. Et j'ai bien compris que c'était une des parties de votre travail que de convaincre les propriétaires de parcelles d'accepter de faire ce boulot avec vous sur le long terme. Vous avez bon espoir? Est-ce que les gens sont sensibles à votre discours, les propriétaires?
C'est pas évident. En fait, je pense qu'il faut qu'on fasse nos preuves avant que des gens soient prêts vraiment à s'impliquer sur le long terme. Quoi. Mais oui, j'ai bon espoir oui, qu'on puisse trouver des propriétaires. Parce qu'il y en a en fait des propriétaires qui ne connaissent pas forcément grand-chose à la forêt, mais ils savent que presque intuitivement, ils ne veulent pas y faire de coupe rase. Et en même temps, ils n'ont pas envie non plus de juste la laisser comme ça. Où il serait presque qu'il y ait du travail qui soit fait. Quoi. Je pense qu'une fois qu'on aura un peu fait nos preuves, on trouvera des propriétaires qui sont prêts à travailler vraiment dans la durée. Et c'est là que c'est le plus intéressant, parce que c'est là qu'on voit vraiment l'évolution de la forêt sur le long terme. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça lui apporte? Ou qu'est-ce que ça lui enlève? Le travail qu'on y fait, ce type de coupe, et ça serait ça qui serait vraiment intéressant. Là où on a le plus de chances de trouver des propriétaires qui seraient prêts à travailler comme ça, c'est plus avec des groupements forestiers, par exemple, qui ont de la propriété forestière collective. Voilà, qui des fois ont acheté de la forêt même pour la sauvegarder. Ça existe quoi, des groupements comme ça. Et c'est peut-être avec des groupements comme ça qu'on pourra le plus facilement travailler.
Oui, en fait, l'association a vraiment un gros travail didactique, non seulement de savoir comment on brûle du résineux, mais aussi apprendre aux gens ce concept d'amélioration de forêt. On pourrait comparer avec les grandes plaines céréalières, quoi. On en est au même point avec les pins noirs et les pins sylvestres ici, quoi. Ce qu'il faut arriver, c'est retourner à de multis espèces, quoi. On le sait bien, quoi, la nature elle ne peut vivre que si elle est diverse. On n'a qu'à voir cette année, je ne sais pas si vous avez remarqué, quoi, le problème des chenilles processionnaires, quoi. Là, il y a des versants sud aujourd'hui qui sont... c'est hallucinant cette année, le taux de cocons que l'on peut voir sur les arbres, quoi. On n'aurait pas du tout ce problème si la multiplicité était protégée, quoi. Donc voilà, il faut que les gens apprennent. Notre but, c'est ça, c'est de leur apprendre ça aussi, quoi. Les conscientiser, si je peux dire, quoi, à ça, à tout ça, quoi.
Tout à l'heure, j'ai dit, je ne savais pas combien il y avait de propriétaires, mais vous, peut-être, vous le sauriez. Vous avez beaucoup de prospects potentiels, vous avez beaucoup de gens à aller voir et à convaincre.
J'ai pas de chiffres, ouais. Mais c'est la majorité. Quoi.
Il y en a quoi? Quelques dizaines? Quelques centaines?
Ah, mais des centaines. Et la forêt française appartient essentiellement, pas en taille, quoi, mais en propriétaire par rapport à l'État. Je peux pas dire de chiffres, mais c'est un pour mille, un truc comme ça. Quoi. Il y a des gens qui sont héritiers de 5000 mètres carrés de forêt, quoi, puis qui savent même pas où ça se trouve, qui sont même pas toujours, ils le savent pas tous, quoi. Voilà, et c'est le problème de ces gestions, quoi. C'est donc ça, quoi. Peut-être même qu'au futur, peut-être que Dryad le fait déjà, quoi, mais il sait conscientiser les gens, à leur faire comprendre qu'ils ont intérêt à se regrouper, petits propriétaires, pour augmenter des parcelles, pour pouvoir gérer ça correctement, quoi. Mais le mec est héritier de 2000 ou 5000 mètres, ou même 2 hectares de forêt, quoi. Qu'est-ce qu'on va lui parler, sauf s'il est vraiment dynamique. qui veulent aller vers ça, quoi. Mais autrement, les gens, ils vont dire... Pff, eux, ils préféreront le chèque que leur donnera le coupeur s'il fait une coupe à blanc. Au moins, ça, c'est du concret. Et puis voilà, quoi. Donc, voilà, c'est encore un apprentissage, tout ça.
Mais, ça,
mais on y croit.
La conséquence de tout cela, c'est qu'effectivement, vous avez beaucoup de gens à contacter, quoi. Et
oui.
Donc, un gros travail d'éducation, quoi.
Potentiellement, il y a énormément de propriétaires à contacter qui ont des parcelles... on va dire exploitable dans des conditions correctes, un peu moins, c'est sûr qu'il n'y en a pas tant que ça. Et puis après, nous, ça va être surtout, on va marcher surtout au bouche à oreille, des personnes qu'on rencontre, qui ont déjà une sensibilité, ou qui viennent vers nous aussi parce qu'ils ont entendu parler de notre démarche et que ça les intéresse. On va pas prendre la liste de tous les propriétaires, et là, je sais pas quel nombre ça représente, mais effectivement, ça doit être des centaines, ouais. Voilà. Et après, ça peut être aussi en fonction, ça aussi on fait en fonction du forestier avec qui on travaille, qui va pas non plus se déplacer à travers tout le Diois pour aller faire ses coupes, qui préfère que ce soit à côté de chez lui.
Alors, un dernier volet de votre action, c'est effectivement trouver des gens pour votre AMAP, des consommateurs, et des consommateurs qui ont envie de s'impliquer et pour le bois, et puis parce qu'ils sont sensibilisés à cette notion d'évolution de forêt dans le temps. Ça, c'est aussi du boulot. Vous en avez beaucoup, des gens dans votre écurie?
Je crois en tout cas que c'est pas actuellement le facteur limitant, quoi. On peut développer la map pour l'instant sans que ça soit le problème de trouver des consommateurs qui adhéreraient à cette démarche. Et justement, c'est ça qui est intéressant, parce que dire qu'on cherche à promouvoir une autre forme de gestion que la coupe rase, ça a rien de révolutionnaire en soi, ça existe déjà, ça se fait déjà, y compris au niveau institutionnel, quoi. C'est juste que y a un contexte économique qui fait qu'on dit, bah voilà, le prix de la stère, c'est tant, le prix du bois sur pied, c'est tant, si je veux m'en sortir, je peux m'en sortir que par la coupe rase. Nous, on dit, il y a une demande, il y a une mobilisation possible, potentielle des usagers qui sont prêts à s'investir, à donner un peu de leur temps, peut-être à payer le bois à l'avance pour éviter qu'au prix du bois, il y ait en plus des taux d'emprunt à rembourser, etc. Peut-être à payer même un peu plus cher le prix de la stère que le prix du marché normal, si on sait que derrière, il y a des conditions d'exploitation correctes, il y a des conditions dignes de travail pour le forestier aussi, et qu'on a du bois local qui n'a pas traversé toute la France aussi pour arriver dans nos chaudières.
Si j'ai bien compris, il faut être adhérent à votre association aux bonnes énergies pour être intégré dans ce système.
Oui.
Ça représente quoi?
On avait la première mouture des bonnes énergies, je crois que c'était des 10 euros, 10 euros par an, quoi. Enfin bref, c'est...
Oui, encore une fois, c'est pas limitant. C'est pas ça qui va empêcher les gens de venir.
Non, non. À priori,
non. Non. Alors, d'autant plus, il y a encore une petite réflexion, ça, je ne sais pas si ça sera, quoi, mais je réfléchissais sur le coup. On s'aperçoit actuellement, tous les ans, la stère de bois prend de 2 à 3 euros. Quoi. Donc on peut dire que même économiquement parlant, il est intéressant d'acheter son bois 2 ans auparavant. On le paye moins cher.
Tu gagnes 2 ans d'inflation du prix,
voilà,
du bois.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en fonctionnant comme ça, on est sûr à l'arrivée d'avoir un bois parfaitement sec. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on achète son bois à des forestiers dont on n'a pas pu contrôler le taux d'humidité, etc. Qui des fois, si on ne connaît pas, aussi, on ne sait pas vraiment si le bois est parfaitement sec quand on l'achète, quoi. Là, au moins, il n'y a pas de surprise de ce côté-là.
On parle depuis le début de l'association Dryade et l'association Les Bonnes Énergies. Et serait-il possible que vous les présentiez succinctement? Qui les porte et quels sont leurs objectifs?
Alors, l'association Les Bonnes Énergies, c'est le groupe local sur le Diois qui cherche à mettre en place cette forme d'approvisionnement en bois de chauffage de type AMAP, mais qui est exclusivement liée au Diois. Dryade, c'est une association qui justement accompagne des initiatives locales comme ça, de circuits courts bois énergie, bois bûche. Elle est basée à Cré, mais elle accompagne un collectif sur Cré, elle accompagne l'association Les Bonnes Énergies, elle commence à accompagner d'autres projets qui émergent ailleurs en France, parce qu'on voit que c'est pas... quelque chose qui apparaît juste ici, en fait. Il y a d'autres endroits en France où ça commence à germer. Voilà. Une des finalités de Dryade, c'est aussi de permettre l'implication des usagers et des citoyens dans la filière forestière, dans les enjeux liés aux problématiques de gestion forestière. Voilà, parce que c'est un milieu actuellement qui est assez hermétique, plutôt réservé aux spécialistes et aux professionnels, où on n'a pas trop le droit de citer en tant que non-spécialiste. Donc de mettre ces questions-là dans le débat public, quoi.
À l'ordre du jour, et c'est vrai qu'il paraît qu'on est dans une période de transition énergétique et qu'il faudrait trouver des solutions locales, peu chères et renouvelables. Donc j'ai l'impression que vous êtes en plein dedans.
Voilà.
Hein ? Peut-être qu'on va se quitter en rappelant à tous les Diois qui seraient intéressés par ce genre de problématique, donc une gestion douce de la forêt qui lui permette d'évoluer, la consommation de bois local, qu'une réunion publique aura lieu le 18 décembre à 20h30 à la salle Fongiraude, en dessous de la salle polyvalente, organisée par les associations Les Bonnes Énergies et Dryad.
Voilà. Et on s'adresse autant aux consommateurs qu'aux propriétaires de forêts qu'ils viennent nous voir, même si a priori ils n'ont pas d'avis, quoi, qu'ils viennent discuter avec nous. On a de quoi leur dire.
Un petit numéro de téléphone au cas où tout de suite après cette interview des gens pourraient être intéressés, ou un contact, un mail.
Alors le contact mail de Les Bonnes Énergies, c'est lesbonnesénergies attaché @gmail.com. Et pour contacter l'association Dryad, alors vous pouvez aller sur le site dryad26.org et le numéro de téléphone de Dryad 08 11 26 00 64.
Ce serait parfait, ça se trouve, il y a quelqu'un qui a une parcelle qui va vous téléphoner. Ah, justement, je ne sais pas quoi faire de mon bois.
On
sait pas jamais. Eh ben, Robin et Philippe, merci d'être passés à la radio pour promouvoir vos objectifs et je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation.
Merci. Bonne journée.
Interview. 1-terre-view.
Okay. The bird.
L'interview du jour. L'interview du jour.